the vibes.
Distant islands, spectral cities.
Mesdames et messieurs, la suite de notre programme va débuter. Merci de regagner vos places, d'attacher vos ceintures. Donc, bon, voilà, il se passe beaucoup de choses déjà pour ce premier jour. C'est déjà intense et merci à tous pour ce qui a été partagé. Moi, je suis très heureux pour la suite de ce programme d'accueillir Paul-Aimé William. On va continuer à la fois à créer nos tissages et à élargir nos géographies, parce que Paul-Aimé va aussi nous parler de Guyane, depuis et de Guyane. Et Paul-Aimé, qui est voilà militant et qui est aussi doctorant en histoire de l'art. C'est une manière finalement de parler de la même chose et encore de l'étendre à un autre endroit. Donc je trouve que c'est un beau rebond. Donc je te laisse la parole. Je pense qu'il y a des échos à ce qu'on a entendu et puis il y a de nouvelles choses qui vont apparaître. C'est à toi.
Super. Bah, je voudrais juste remercier Olivier de m'avoir invité. Bon, c'est un bon lieu pour pouvoir exprimer les luttes indépendantistes guyanaises. Alors, Raymond Charlotte est né en 1947. Il est toujours en vie et milite depuis 1965. Ses premiers pas dans le militantisme se feront dans le syndicalisme de l'Union des étudiants guyanais à Paris. Certains des objectifs de ce syndicat étaient de relier et de renforcer les luttes étudiantes et ouvrières des Guyanaises, Guyanais partis en France pour des études et promouvoir le retour des travailleurs, travailleuses en Guyane après leurs études. Raymond Charlotte s'est formé dans un groupe d'étudiants et de travailleurs s'inscrivant dans une tradition pour, avec et contre deux philosophies communistes, le marxisme orthodoxe et les pensées révolutionnaires latino-américaines de la guérilla d'Ernesto Che Guevara et de Fidel Castro. À la fin des années 60, il a été enrôlé dans l'armée française malgré son refus d'être sous les drapeaux français. Raymond Charlotte a été affecté à l'état-major de Villacoublay afin de récolter des informations sensibles durant mai 68, par exemple. À la fin de son service militaire en métropole, il retourne en Guyane, âgé de la vingtaine, avec le petit livre rouge de Mao Tse-Tung, tel qu'une grenade dans la main d'un jeune nègre. Il inquiétera ainsi les services français de sécurité. On lui proposera des faveurs pour retourner en France, ce qu'il refusa par conviction. En 1973, il crée avec Antoine Lamouraille et d'autres la revue KOK. Antoine Ouaegui, dit Lamouraille, est un tambéman de la communauté Aloukou-Boni de Guyane. Il est décédé il y a quelques semaines. Certains l'ont connu il y a peu de temps avec l'exposition « Marronnage », l'art de briser ses chaînes à la Maison de l'Amérique latine, à la suite d'une proposition d'Hervé Télémaque. En plus d'être fondateur du MBLG, Mouvement de Libération des Bonis de Guyane, Antoine Lamouraille a été le directeur artistique de la revue KOK. Ses deux frères d'armes politiques se sont rencontrés à l'UTG, Union des Travailleurs Guyanais, puis se réunissaient dans un petit local de Cayenne. Ils ont grandi politiquement en somme, se rappelle Lamouraille. Leur lutte était nationaliste avec une doctrine continentale, c'est-à-dire tournée vers l'extérieur, ce qui les amenait à rencontrer plusieurs personnes de différentes classes sociales, du peuple, pour défendre les intérêts du peuple, aime à dire Charlotte. Et cela en dépit des divisions ethniques. Dans un court moment que j'ai pu enregistrer, il était déjà malade et avait quelques scrupules de délivrer des souvenirs en raison de perte de mémoire. Lamouraille m'a confié ce qu'il faisait dans le cadre de sa fonction de directeur artistique. 1. Des dessins. Et 2. La vérification des articles afin de prendre la responsabilité de ce qu'il sera publié et ainsi se défendre et convaincre les critiques parfois sévères et allant même jusqu'à l'usage de mains. Dans les années 70, ont été une décennie d'effervescence pour les publications de revues anti-système en Guyane. En plus de la revue anticoloniale de Raymond Charlotte, il y avait les publications Jeune Garde, Tam Tam, Negmaran, etc. La plus visible aujourd'hui, mais pas forcément connue comme telle, est Rod Boukrik. Je change de slide. En Guyane, plusieurs artistes rendent hommage à cette revue, comme José Legrand. Prochaine slide. Dans un de ses tableaux, très rare à voir, il me l'a montré pas forcément directement, et je pense qu'il le garde précieusement dans sa collection personnelle. Osman Robineau également a repris le titre pour une de ses expositions dans son atelier. L'exposition s'est intitulée Rod Boukrik et elle a été traduite par les soins de Rosman par Au bord de la rivière. Troisième slide. En France, c'est à travers une maison d'édition qui gagne de plus en plus ses lettres de noblesse que l'expression est connue, voire même intrigue, puisque ce n'est pas du français. Il est arrivé que l'on confonde la suite de mots rot et bo avec le mot robot. L'un des membres fondateurs de cette maison d'édition est l'artiste guyanais Mathieu Abonac. Cependant, cela n'empêche pas l'extractivisme sous couleur d'un projet d'émancipation. Cette entreprise reste un geste colonial, puisque cette société d'édition est fondée en France, est imprimée en France. De plus, il n'y a eu aucun événement de cet éditeur en Guyane. C'est tout de même la moindre des choses. José Legrand, en enlevant les mots de ma bouche, parlera ainsi d'un projet d'anticolonialiste colonial. Formulation de ce paradoxe que je n'arrivais pas auparavant à articuler. Soyons clairs, la Guyane est une colonie française qui a été départementalisée en 1946. Cependant, jusqu'en 1969, elle était balkanisée en deux territoires et deux administrations différentes. L'arrondissement de Linini, que vous voyez en vert, et l'arrondissement de Cayenne, qui est sur le littoral. Dans les années 50-60, les individus de la population guyanaise n'étaient pas tous et toutes françaises. Il y eut un processus de francisation des populations autochtones et bushnyangé dans cette période, au contraire des descendants d'esclavagisés, devenu citoyen français en 1848. La politique ethnique est toujours opérée par l'État français, intégralement colonialiste, dans l'éducation, l'administration, les fonctions publiques, la classe sociale, les quartiers urbains et les noms de rues. Raymond Charlotte présente son nationalisme comme une lutte d'affirmation d'une nation différente de la France. Cela n'est pas du chauvisme. Il refuse l'assimilation qui tourne les Guyanais de toutes les communautés vers la France, comme un jeune pousse vers le soleil. Dans le domaine de l'alimentaire, les domaines régaliens et dans leur style de vie. Heureux sont ceux qui mangent du féfé, dit Raymond Charlotte, c'est-à-dire un crocodile. Mais ces derniers et ces dernières ne savent pas faire la différence entre un caïman noir et un caïman blanc. L'un des objectifs de ce nationalisme est la rédaction d'une constitution guyanaise au même titre que la République noire haïtienne achevée au prix de sacrifices. Une constitution qui puisse fédérer toutes les nations autochtones nègres du Sud en Guyane. La création d'un drapeau d'après Raymond Charlotte n'est pas suffisant. Il revendique la rédaction d'une constitution comme l'ossature d'un pays pour changer les mentalités et les institutions et épanouir la population. Tu peux changer. Du journal hebdomadaire au magazine papier, la revue Kauka prendra plusieurs formats. Le nom KOK avec deux K et un W. De 1973 à 1980, date de fin de publication. Les premiers numéros étaient faits au réonographe, à l'encre. Ce fut une tâche laborieuse que l'équipe de rédaction s'acquittait de 4 heures de l'après-midi jusqu'à 23 heures pour qu'ils puissent, par eux-mêmes, au lendemain matin, distribuer les quelques 1000 exemplaires dans tous les quartiers de Cayenne, même de l'autre côté de la rivière jusqu'à Saint-Laurent. Le journal était également envoyé à Regina et sur l'Oyapock, à la frontière avec le Brésil. Au fil des publications, l'impression s'imposera et ce procédé se fera en Guyane et par des commandes au Suriname. Ainsi, le tirage par numéro sera au nombre de 3000 exemplaires. La revue KOK est très peu connue en Guyane et la mauvaise éducation prodiguée par l'État colonial français à la masse mène d'aucun à penser qu'aucune production intellectuelle anticoloniale prodigieuse n'a été créée auparavant. Tu peux changer la slide, s'il te plaît. Avec la publication en 1984 de son recueil de poèmes KOK pas pouvait tomber, Raymond Charlotte a donné ses lettres de noblesse à cette revue oubliée. Hélas, ce recueil de poèmes est aussi tombé aux oubliettes. Changement slide. L'anthologie de la poésie guyanaise d'expression française de l'universitaire René Nyalega et de la poétesse Sylviane Beaufort, publiée en 2016, ne font aucunement mention de Raymond Charlotte parmi les poètes guyanais. Cela peut s'expliquer par 4 possibilités. Une, ils n'ont pas consulté la revue KOK où l'on peut trouver des poèmes de Charlotte. 2, ils ne s'en sont pas entretenus avec ce dernier. 3, ils connaissaient René Charlotte, mais ce dernier ne les a rien montré, car il est très conscient de l'importance de ses archives. 4, ils l'ont écarté sciemment ou inconsciemment. Ce recueil de poèmes fait partie d'une série de 3 recueils publiés par Raymond Charlotte. Le premier est une anthologie de la poésie guyanaise publiée en 1978, comprenant 6 poètes, dont Jules Linguet et Antoine Lamouraille. Ce premier recueil n'est pas non plus mentionné dans la période 1937 à 1981, appelée la période Damas dans l'anthologie de René Léga et de Sylviane Beaufort. C'est vraiment un exemplaire rare, introuvable, pas connu des spécialistes et qui a été imprimé au Suriname et que Raymond Charlotte m'a gracieusement donné, car il a un exemplaire en plus pour lui. Le troisième recueil de la série ne m'a pas encore été dévoilé par Raymond Charlotte. Je sais uniquement qu'il y a 3 recueils selon ses informations. Le recueil qui nous intéresse ici est le deuxième, KOK pas pouvait tomber. Composé uniquement de poèmes de Raymond Charlotte, ce livre ne figure pas non plus dans l'anthologie de la poésie guyanaise. Il n'est pas disponible à la vente et est consultable uniquement à la bibliothèque universitaire de Guadeloupe, ce qui prouve une circulation minimale de l'ouvrage. Par contre, ni la Bibliothèque nationale de France, ni l'Université de Guyane n'ont d'exemplaire. Raymond Charlotte souhaite republier son recueil pour le mettre à disposition de tous et de toutes. Il sera bientôt disponible, je l'espère. KOK en langue veut dire « tais-toi, ferme-la », une expression qui n'est plus usitée aujourd'hui. Le titre du recueil « KOK pas pouvait tomber » pour Raymond Charlotte veut dire « nous ne pouvons pas tomber ». KOK ne veut pas dire « tais-toi » dans ce titre, mais signifie la revue, le groupe KOK, le mouvement anticolonial dans lequel ils s'inscrivent, et voire même la Guyane entière. Raymond Charlotte me disait dernièrement que KOK ne peut pas tomber, puisque 50 ans après, il y a des gens qui le lisent encore et veulent le lire, donnant sens au sous-titre du recueil qui est « Fais ça, vous autres pouvez lire. Fais cela pour que vous puissiez le lire. » les poètes et poétesses guyanaises qui écrivent ou oralisent la poésie en Guyane sont voués à se confronter, à dépasser, à traverser la pensée de Léon Gontran-Damas. Ce dernier se définissait comme le Saint-Esprit du mouvement de la négritude créé dans les années 30. En effet, Damas est le premier à avoir matérialisé en poésie la négritude dans son recueil de poèmes Pigments en 1937, Avant Césaire et son corps. Souvent à l'ombre des deux poètes, phénomène bizarre puisqu'ils ont tous trois eu une carrière proche, que ce soit en poésie ou en politique, ils étaient tous trois députés. Cependant, la vie de Léon Gontran-Damas se singularise dans ce groupe de la négritude qui est plus nombreux que la Trinité, que les universitaires, musées et les médias veulent nous faire croire, puisqu'il y avait d'autres membres de l'équipe de la revue Étudiants Noirs, moins connus, tels que André Midas et R. Sofanor. Léon Gontran-Damas dira même dans une interview que c'est Jeanne Lardal, sa belle cousine par alios, qui était la pionnière entre tous et toutes, ce qui met en berne les insinuations a posteriori de misogynie noire des membres de la négritude, qui n'est pas une trinité, mais qui a été, je le répète, un groupe plus large. Malgré qu'il soit membre de cette élite noire de Paris dans les années d'entre-deux-guerres, Léon Gontran-Damas a été un prolétaire noir, contrairement à ses amis sorbonnards ou normaliens. Il occupait à l'époque des jobs de barman, de manœuvre d'usine ou de chômeur sans pain ni ressources. Selon Antonio Gramsci, tous les hommes et les femmes sont intellectuels. Mais tous les hommes et toutes les femmes ne remplissent pas dans la société la fonction d'intellectuel. J'ai ajouté « et les femmes ». Ici, je fais une différence entre une élite et une oligarchie. L'élite révolutionnaire ou intellectuelle a vocation de favoriser l'autonomie du prolétariat, compris comme tout individu dont la force de travail est volée ou empêchée par le cadre du salariat. Un salarié, un chômeur, un étudiant est un prolétaire tant qu'il n'est pas en possession des moyens de production détenus par la bourgeoisie, soit le patronat ou le capital. Un patron n'est certainement pas un prolétaire. Cette élite révolutionnaire a pour tâche aussi de réorganiser politiquement et économiquement la société par ses connaissances sociales basées sur des principes scientifiques et des conquêtes morales. L'oligarchie est ce petit groupe de dominants qui contrôlent de larges monopoles économiques, cultivent leurs privilèges et nous gouvernent. Ils sont milliardaires, ministres millionnaires, patrons du CAC 40, entreprises criminelles, héritiers de groupes cosmétiques, etc. Léon Gontran-Damas a été un prolétaire soumis aux servitudes du salariat et aux névroses de la négrophobie. Sa prise de conscience du capital racial l'a mené, comme d'autres suivant l'ouvrage « La nuit des prolétaires, archives du rêve ouvrier » de Jacques Rancière, à une révolution intellectuelle afin de s'émanciper. Cette existence cambriolée s'est matérialisée dans la structure de son écriture par l'usage de la poésie dans sa forme la plus rapide à écrire et à lire, marronnant le contrôle industrialisé du temps de conscience disponible et du gouvernement des vies colonisées entre sommeil réparateur et journée d'exploitation. Une poétique contraire à l'écriture du roman qui prend plus de temps, avec des phrases lentes et longues, pratiquées par des catégories privilégiées allant de la sous-bourgeoisie à l'aristocratie. C'est dans cet héritage damasien qu'entre une prose raciale que Raymond Charlotte s'inscrit. Le recueil de Pigments de Damas n'est jamais loin de sa table de travail. Le recueil « Kauka pa pouvait tomber » fait ça pour Zot Pouveli a été imprimé par Actua Pr- Sprint à Paramaribo au Suriname pour des raisons économiques. Cela n'était pas cher et publié à 1000 exemplaires. Le titre du recueil en langue et les poèmes sont écrits à la fois en créole guyanais, en français, en espagnol et en ngué-tongo, l'une des langues créoles des Bushinengué, et parfois traduit dans l'une de ces langues comme un poème Cayenne. Tu peux changer. Là, c'est en ngué-tongo et la suivante. Alors, le poème Cayenne, du français à l'espagnol, et de La vie manchait, traduit du créole guyanais à l'anglais, dans le même ouvrage. Dans ce livre d'une quarantaine de poèmes, Raymond Charlotte dépasse Léon Gontran Damas, qui introduisait dans ses poèmes des créolismes ou certains mots en langue. Charlotte multiplie aussi l'héritage du guyanais Athénodore Mitterrand, l'auteur du premier roman en créole dans le monde entier, publié en 1885 à Paris sous le pseudonyme Alfred de Parépou et intitulé Atipa. Cet ouvrage de Raymond Charlotte est aussi composé d'images, de manifestations, de luttes sociales qu'il a prises dans les années 70. C'est Pierre Servin, photographe africain-guyanais, et par ailleurs mon arrière-grand-père, qui a incité Raymond Charlotte de s'acheter un appareil photo analogique et d'expérimenter cet objet. La composition des images et des poèmes est venue à Charlotte par sa pratique de directeur éditorial de la revue Kauka, sa longue expérience de production de journal et le fait qu'il soit un grand lecteur de journaux internationaux lui a permis de placer avec justesse ses photographies dans son recueil. La composition d'images de résistance de Raymond Charlotte sont plus radicales que celles de la quiétude sans emphase de The Sweet Flyer Paper of Life, un livre de fiction et de photographie publié en 1955 par le photographe américain Roy De Carava en compagnie de l'écrivain africain-américain Langston Hughes, illustrant la vie quotidienne d'habitants noirs d'Harlem. En effet, les années 70 et 80 ont été très mouvementées pour Raymond Charlotte puisqu'il sera arrêté à l'âge de 27 ans en Guyane et transféré à la geôle de la santé en France avec 7 autres indépendantistes. Ils seront accusés de fomenter un attentat la nuit de Noël 1974. Ils seront toutefois libérés le mois d'après, en janvier 1975, selon le journal Le Monde. Les charges reconnues contre eux s'étaient révélées, en fin de compte, très légères. En 1980, il sera de nouveau incarcéré en France, avec 4 autres militants, dont Antoine Lamoreille, pour tentative d'attentat par explosif, de détention d'explosifs et de participation à une association de malfaiteurs. Les poèmes de ce recueil n'ont pas été écrits en prison, selon Raymond Charlotte. Il ne sait pas vraiment combien de temps il a passé en prison. Cependant, il a gardé des dessins qu'il a fait dans sa cellule en 1980 et qu'il garde précieusement. Il me les a montrés rapidement. Je n'ai pu photographier qu'un dessin par biais pour ne pas tout divulguer. Au cours de son séjour en prison, Charlotte a su qu'Antoine Lamoreille commençait à faire des tembés dans sa cellule. Il a décidé lui aussi de dessiner du ressentant écroué. Lorsque Mitterrand a été élu en 1981, il a amnistié les militants politiques qui étaient dans les geôles françaises. Il y avait des Kanaks, des Guyanais, des Guadeloupéens et les 5 Guyanais qui avaient été déportés en juillet 1980 à Paris. L'histoire n'est pas finie. En 2011, Raymond Charlotte a été agressé chez lui et laissé pour mort par un commando de 4 individus qui parlaient très très bien français. Ils n'ont rien volé, comme par hasard. L'UTG dénonce un acte prémédité, lâche et barbare, une méthode d'intimidation contre un de ses adhérents, par ailleurs militant nationaliste et anticolonialiste. Maintenant, on va rentrer plus dans une analyse des vers et des poèmes. Mais entrons dans l'un des poèmes du poète. Kourou, à qui le dernier mot ? Soleil qu'a chauffé, la pluie qu'a tombé, tout bagage qu'a chaudé, et qu'a voyé fisé, actuellement, mon pack a fait bâti Molando. Dachine, à quand rentrer au fond la TA ? Toyov, Yam, Kamo, à qui le dernier mot ? Hola, le même vieux bourricot qui s'accroche éternellement. J'ai marre, un alipopo inoffensif, tranquille, avance avec souplesse, ses quatre pattes frêles. À qui le dernier mot ? Quand l'horizon se brouille par des émetteurs récepteurs sur la terre des télécommunications, sur la réserve du sur la terre des travaux publics, sur les terrains militaires, sur les terrains de l'évêché, sur les terrains des douanes, sur notre terre, au senteur d'Akupafri, laissé pour compte aux derniers démunis, aux souches guyanaises accablées, rangées, sans aucun idéal, comme les repus de la cité, redescendaient de la lune, à la fidélité guyanaille, une guyanaille entichée de consultations, prête à se ruiner si le besoin se fait sentir. Voyez le monde blanc, blanc immaculé, qui nous inocule des gaz toxiques, aux notes de trompettes, de légions sous des arcs tropicaux. Ils vont finir la nuit au Kachiri, dans les bras d'une coloquette, ça veut dire une pute, à qui le dernier mot, quand le colonel de la base met en circulation des bancs de baisage. Ce poème est un peu un concentré de la poésie critique de Charlotte, la place du créole dans le texte. On retrouve le rythme et la concision des vers de Damas, et le terme « guyanaille » nous rappelle à mort au maître d'école, et vivent les rebelles, les réfractaires, les cutéreux, les insoumis, les vagabonds, les bons absents, les propres à rien, et vivent la racaille, la canaille, la valtaille, la négraille, dans le poème Black Label de Léon Gontran Damas en 1966. La pratique de la traduction est articulée dans la structure de l'écriture de Charlotte afin d'apprendre d'autres langues que le français, mais aussi dans un désir d'accessibilité au plus grand nombre, dans un langage et un style simple qui facilitent la traduction. En effet, Raymond Charlotte est un fou yailleur des langues. Il a plusieurs dictionnaires qui ont bien vécu, portugais, espagnol, nengue-tango et anglais. Dans ce poème, Charlotte réclame notre terre en se remembrant des souvenirs d'arrière-pays au senteur d'Akupafri. Il constate l'envahissement de ce pays devenu terre de télécommunications sur la réserve du SNES. En dépit des cultures autochtones et diasporiques que relate par les témoignages recueillis, Julia Chocho Doufaï, tu veux changer ? Fille d'un exproprié dans son livre « Mémoire des expropriés » de Kourou et Sinamari, ou l'autre facette de l'implantation du centre spatial guyanais. Les chercheurs Irénée Regnault et Arnaud Saint-Martin, dans leur récent livre « Une histoire de la conquête spatiale des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space » reviennent sur l'envers du décor et des promesses de projets du lancement de fusées. Yeka voyé fisé, mais actuellement je n'ai pas d'abattis pour des melando. En 1964, le général de Gaulle se rend en visite officielle en Guyane et y annonce la tenue prochaine de grands travaux. Ceux-ci seront menés sur la commune de Kourou et de Sinnamary, naît le centre spatial guyanais. Sans son ancrage colonial, la France aurait probablement été dans l'incapacité de construire un centre spatial pour tirer des fusées. Un ancrage bien documenté par l'anthropologue Peter Redfield dans son ouvrage « Space in Tropic from Convict to Rocket in the French Guiana » avec ironie, parfois. Plus la destination est loin, plus elle est appropriée pour des tests explosifs. Quand vient l'heure de quitter le globe, les terres désolées acquièrent une valeur et le sous-développement devient une vertu. Jusqu'en 1980, le SNES fait office de maître d'ouvrage à Kourou. Une ville transformée pour accueillir les infrastructures et les travailleurs issus de France métropolitaine, alors que les populations locales sont beaucoup relogées dans des habitations collectives étrangères à leur culture locale. À partir de 1964, les familles paysannes de Guyane, de Renner, de Malmanori et de Kariakoubo, 300 à 400 personnes au total, sont ainsi expulsées et relogées, générant un traumatisme durable. L'arrivée de la conquête de l'espace à Kourou contribue par ailleurs à renforcer sa stratification sociale. Les travailleurs Aloukou et Saramaka sont relogés dans des bidonvilles, les paysans dans des logements exigus, les travailleurs créoles dans des appartements collectifs à l'entrée de la ville, les travailleurs qualifiés plus près du centre spatial. Et enfin, la partie de la ville surnommée Kourou la Blanche par les Guyanais est construite de toutes pièces pour loger les cadres du CSG. À ces populations, il faut ajouter les gardes pour assurer la sécurité des unités de l'armée française et un détachement de la Légion étrangère déployé lors des lancements de fusées. En effet, il y a quelques semaines, il y a eu un grand incendie dans le bidonville nommé Chili, près du centre spatial guyanais, où des satellites sont tirés et ces satellites ils coûtent des milliards de dollars. Par exemple, le satellite James Webb, qu'on glorifie en ce moment, lancé en 2021 à Kourou, a coûté 10 milliards de dollars. Ainsi, dans les différents poèmes de Raymond Charlotte, plusieurs thèmes sont abordés. La place des femmes noires dans la lutte, la domination de la femme blanche, la ruralité et l'urbanité, la présence d'animaux non humains, etc. Aujourd'hui, Raymond Charlotte est en train de retravailler un manuscrit de poésie dans ses archives et il souhaite les compléter de nouveaux poèmes. Il continue d'écrire. Pour être précis et souligner sa pratique poétique, il préfère proclamer un poème puis le retranscrire. Voilà. Désolé pour ma voix.
Merci Paul-Aimé. Donc on a transité en fait aussi de signe en signe avec cette présentation. On est rentré sur la question de l'écriture et aussi sur la question de l'édition. J'étais assez intéressé parce que tu soulignais dans le travail de Raymond Charlotte et de sa propre analyse de la poésie comme finalement une économie politique. Parce que du coup, c'est vrai que on a parlé ce matin dans l'introduction de cette question de la métaphorisation et typiquement la poésie est typiquement un terme qu'on porte à un ensemble de productions qui seraient politiquement inoffensives. Voilà, on poétise et on sait que c'est des régions du monde où la question de la poétique de nos régions, ça veut à peu près dire tout le contraire de la politique. Et là, ça me semble assez intéressant aussi qu'il y ait une réflexion qui, pour moi, fait écho aussi au travail de Sylvia Winter que moi j'ai utilisé à ce propos dans Plot and Plantation, lorsqu'elle met elle-même en critique la question du roman comme forme de narratif colonial. Là, on le rejoint aussi à un narratif bourgeois, mais là, il y a un rapport presque plus micro. Il faut le temps du roman par rapport à l'espèce d'urgence de la poésie. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que quelque part, si on regarde le modèle occidental de la poésie, c'est un peu différent ce qui se passe. Il y a presque un privilège plus haut de la poésie qui n'a pas d'économie, qui serait presque un art aristocrate. Par rapport à l'art bourgeois du roman, on a encore un truc un peu plus relié à une forme d'oisiveté. On fait de la poésie. Vraiment, là, c'est une gratuité. Là, on voit à l'inverse que Raymond Charlotte et son analyse le souligne. Il voit au contraire une capacité, en fait, comme Damas aussi, dans l'exemple que tu prends, de pouvoir agir dans une économie maîtrisée, réelle, avec le temps qu'on a, l'espace qu'on a, les moyens qu'on a, et qui rejoint en fait ce qu'on a évoqué sur l'origine de plusieurs formes de la culture hip-hop, c'est-à-dire quelque chose qui quand même peut se réinscrire dans une économie de moyens et dans un désir d'autonomie.
Quand moi je suis allé voir Raymond Charlotte pour le projet d'Olivier Marbeuf, je l'ai déclamé ton texte. Et il a été très, très, très enthousiaste de pouvoir participer à cet événement. Il m'a dit non, mais Paul Aimé, il faut programmer ce genre d'événement pour que qu'on puisse être là, qu'on puisse rencontrer d'autres personnes. Tu sais, moi, j'ai des amis ici à Paris, militants, qui luttent à l'ONU, tout ça. Il faut que je les contacte. Ça prend du temps. Et il m'a dit moi, je travaille là même sur un poème, mais je peux pas l'écrire. Moi, j'ai besoin de le déclamer parce que ça sort de mon être. Et l'écrire, ça sera pas possible. Je l'ai demandé même, est-ce que je pouvais le retranscrire directement. Il m'a dit non, parce que il y a des termes que j'utilise que c'est pas forcément que tu vas comprendre, parce que moi, les textes de Raymond Charlotte, je ne comprends pas beaucoup de mots, quoi. Parce qu'il utilise des mots assez anciens, qu'on n'utilise pas aujourd'hui en créole. Mais quand moi, j'ai lu son texte, comment dire, j'ai senti une proximité. Par exemple, dans l'un des derniers poèmes qu'il a écrit, ça s'appelle « Le Batman ». Et il dit « Batman, toi qui es dans le quartier chaud de Cayenne, Batman. » Je dis « Mais ça, c'est ce que je ressens. » Je suis sûr que si je montre le poème à Jaron, il va péter la tête. Parce que moi, quand j'ai découvert le recueil de Raymond Charlotte, j'étais au MDS, Mouvement de décolonisation de la Guyane, et j'ai trouvé ça dans la bibliothèque et je l'ai shippé directement. Et je l'ai envoyé à Myrto Linguet pour lui dire « Mais qu'est-ce que t'en penses de ça ?» Parce que moi, c'est un ovni, parce que je n'avais jamais lu un tel texte d'un auteur guyanais. La plupart des poètes qu'on a en Guyane sont de droite, mais ils font semblant qu'ils sont des gauchistes, mais c'est pas ça. Mais j'ai envoyé ça à Myrto, il m'a dit « Putain, c'est ça qu'on a besoin, on ne trouve pas ça ?» Même que moi, j'ai fait que de souligner que Raymond Charlotte n'est pas dans l'anthologie de la poésie guyanaise. Et moi, je trouve ça, c'est vraiment anti-scientifique de pas, qu'il ne soit pas présent, quoi.
Oui, mais tu sais bien que la science n'est pas non plus une chose neutre, quoi. Et quand tu parlais de cette anthologie, moi, je retrouvais quelque chose qu'on a évoqué un peu indirectement aujourd'hui, mais sur le fait qu'après, l'histoire, elle est remise en ordre. Les remises en ordre par des enjeux qui sont économiques, politiques. On a besoin que les choses se racontent d'une certaine manière. Les invitations que je vous ai aussi faites à toutes et tous est une manière de proposer une manière de faire histoire, qui est une possibilité. On sait qu'il y en a d'autres qui sont faites dans lesquelles, comme par hasard, il manque des personnes que nous on mettrait en haut de la liste, quoi. Ouais, c'est et c'est malheureusement pas un hasard. On est aussi dans la question de la mise en récit de ces territoires-là. Elle est un enjeu assez central. Que Françoise Vergès l'a dit ce matin. Elle a dit on a aussi notre part de responsabilité. C'est pas dans l'anthologie. Ben il faut faire une autre anthologie. Voilà, il faut qu'on c'est tout. C'est pas quelqu'un qui est pas invité. Ben il faut l'inviter. Tu vois, à un moment donné, il faut qu'aussi on se rende compte que on peut pas tellement compter sur des gens qui sont pas nos amis pour faire des choses différentes de celles de nos ennemis. Ouais, tu vois, c'est effectivement, il y a quelque chose qui tombe sous le sens. Après, moi, ce qui m'intéressait dans le recueil de Raymond Charlotte, quand tu me l'as présenté, c'est à la fois, évidemment, j'ai envie de dire évidemment, mais c'est quand même bon de le rappeler, la question de la recherche et de l'expérimentation. Alors là, ma vieille obsession, en fait, sur les cultures noires, c'est la tendance lourde à les présenter comme des cultures mainstream, quoi. En fait, la culture noire, ça va nous servir à faire des trucs mainstream. On est là pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, la question de l'expérimentation, de la recherche dans la modernité, globale, est complètement, effacée. On oublie, en fait, les grandes expérimentations, pas simplement les pensées, mais les formes, quoi. Cinéma expérimental, musique, comme toute la musique du XXe siècle est noire, il y a aussi de la musique expérimentale noire dont il faut tenir compte dans le jazz, si t'écoutes Roscoe Mitchell, on n'est pas en train d'écouter quelque chose qui est de la musique mainstream, mais qui est vraiment une musique d'expérimentation, mais aussi qui cherche émotionnellement quelque chose. Et donc je trouve que là il y a un mélange entre expérimentation et recherche émotionnelle qui m'importe dans une espèce d'histoire de l'art expérimental qui pourrait être particulier à des cultures noires et afrodescendantes. C'est-à-dire où il n'y a pas une opposition entre expérimentation et émotion, par exemple. Il y a une recherche d'une espèce de prégnance émotionnelle qui n'est pas liée qu'à la question mainstream. C'est pour ça aussi la classification des formes qui vont toucher à l'émotion comme directement faites pour être des formes faciles. Coltrane, on en pense ce qu'on en veut. Moi, je trouve ça très émouvant et à la fois extrêmement expérimental. Et donc, cette espèce de particularité de l'histoire, c'est aussi à nous de la saisir pour la raconter comme une histoire de l'expérimentation noire, en fait. Et là, je trouve que c'est Charlotte, on retrouve c'est ce caractère-là, quoi.
Moi, je dirais direct que moi, quand je suis allé voir Raymond, je lui ai dit... La question, déjà, je l'ai posée, mais est-ce que c'était toi qui a pris la photo? Parce que moi, de base, je croyais que c'était mon arrière-grand-père qui avait fait les photos, qu'il avait repris et qu'il avait mis dans ses recueils. Mais après, il m'a dit, mais oui, c'est moi qui ai pris les photos. J'ai dit, mais putain, t'es trop fort et tout. Et après, dans un autre rendez-vous, comme moi, je le vois par subrepticement, quoi. On reste pas beaucoup, on passe 5 minutes et après, on se quitte. Et pour ce projet-là, je suis allé le voir, je lui ai dit, mais comment tu as eu l'idée de mettre des photos et des images dans ton texte? Il m'a répondu assez laconiquement. Il m'a dit, mais j'ai dirigé une revue anticoloniale. Et c'est la seule raison qu'il m'a donnée. Je ne pense pas qu'il va chercher plus loin, en fait, qu'il va se dire qu'il est en train d'expérimenter. Pour lui, je pense que l'expérimentation, ça se base plus dans l'écriture. Quand il mélange plusieurs langues, que ce soit nengue, tango, créole, espagnol, etc., même le brésilien. Et c'est là qu'il faut chercher, quoi.
Oui, mais je trouve qu'il y a aussi, il a en commun, comme beaucoup de revues, notamment, anticoloniales et des revues de lutte noire de l'époque, de nouveau, les conditions matérielles de production obligent à l'expérimentation. Les premiers journaux des Black Panthers qui sont maintenant utilisés dans des cours de graphisme, etc., sont d'abord extrêmement dépendants de comment c'est fabriqué. Les lettres A7 qu'ils ont à disposition, le temps qu'ils ont pour faire, en général, c'est une page recto verso. Et là, que j'ai retrouvé, en fait, dans les exemplaires que t'as montré de Kawaka, tu vois, une espèce d'exigence technique. Tu commences à telle heure, tu finis à telle heure. Moi, je dis ça parce que je suis extrêmement sensible à ça pour une très mauvaise raison. C'est que dans ma propre vie d'auteur, j'ai jamais trouvé moyen de travailler autrement que comme ça. Et donc c'est une réflexion sur la dette qui serait peut-être un prochain chapitre de cette recherche. Tu te poses la question de te dire, mais comment après tant d'années, comment après un travail qui est montré, tu n'arrives pas à sortir de ces conditions d'urgence? Et des fois, tu finis par essayer de réfléchir à un rapport esthétique à la condition d'urgence, là où, dans encore une fois l'histoire de l'art ici, on essaie de séparer les conditions de production des formes d'expérimentation. Moi, je crois qu'il faut essayer de les relier. Les conditions dans lesquelles ils sont forcés de faire les choses, oublie. Moi, je sais pas, si tu remontais l'image avec la typo, là, qui mettent la Guyane en faillite et tout, c'est quand même pour moi, c'est quand même un sacré truc. C'est vraiment une espèce de travail sur l'espace de la page. Attends, on l'a vu juste. Il est là, voilà, regarde. La Guyane en faillite, ça, c'est quand même assez beau, quoi. Je veux dire. Et là, on voit bien qu'évidemment, ils ont des systèmes de lettrine, de lettrage, quoi, qu'ils utilisent. Ils peuvent remplir. Toi, tu as deux possibilités. Tu remplis l'intérieur de la lettre ou alors tu fais que le contour. Et là, il y a une compo. De toute façon, ils ont une espèce de rectitude qui va être liée à la photocomposition, tu vois, les grilles qu'ils vont réaliser, mais ils ont une marge de manœuvre avec les titres, en fait. Et là, du coup, on voit que le titre, à la fois le titre de la revue ou alors le titre de ce numéro-là, va être quand même un endroit où rien t'oblige à écrire ça comme ça, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vois ça, je me dis, waouh. Je me dis, et tu vois bien que le progrès technique de production, on le voit ici, rend un résultat graphique beaucoup moins intéressant, en fait. Parce qu'il se standardise, en quelque sorte. Et que moi, qui ai été éditeur, quand on commence à devoir faire des gros tirages et à standardiser, avoir une distribution, ben, l'expérimentation graphique, etc., passe un peu à la poubelle au fur et à mesure, parce qu'on a une obligation d'efficacité. Donc, on est plus lu, plus vu. Mais tu vois que là, les premiers numéros qui sont à 2 francs, là, sont quand même pour moi, c'est vraiment quand même des planches vraiment intéressantes. Et ça, je crois que c'est aussi, voilà, la question de examiner les conditions dans ce qu'elles produisent comme esthétique. Je me rappelle avoir discuté d'un projet de revue avec des amis en disant que voilà, on va essayer de faire que nos conditions décoloniales soient des conditions esthétiques. Là, ils n'ont pas du tout pris. Ils ont dit non, on va mettre un contenu. On va mettre un contenu, Olivier. Et la question d'avoir une condition visuelle, plastique, il me semble que c'est assez intéressant. Et je trouve que je suis d'accord avec toi sur le fait qu'ils cherchent dans son texte, notamment avec le recueil, quand tu dis que finir par appeler en fait un nous qui est en fait le nom de la revue est quelque chose d'assez beau, quoi. Mais je pense qu'il y a quand même aussi des conditions matérielles de production dont on doit requalifier en fait la valeur esthétique, quoi.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je pense que ça doit passer aussi par le fait de se poser des questions. Parce que moi, quand je suis allé le voir, si je n'avais pas posé la question, mais comment tu fais pour, vous avez fait pour produire tout ça et ça prenait du temps, il n'aurait jamais répondu à cette question, même soulevé ce thème-là.
Oui, mais écoute, là, tu soulignes l'importance conversationnelle qui montre pourquoi, aujourd'hui, sur la scène dans laquelle on est, les artistes de nos régions vont souvent porter des arguments d'une grande pauvreté, c'est la disparition de la conversation critique, quoi. Je veux dire, je cite personne de gens qui font une grande exposition en ce moment, mais pour dire qu'en fait la pauvreté de l'argument est liée à la pauvreté de la conversation, parce qu'il y a aucune raison qu'on soit capable seul de pouvoir produire un ensemble de pensées de son travail. Ça demande aussi d'être en rapport avec d'autres gens qui le regardent. Et à l'inverse, un travail peut être appauvri quand il n'est guidé que par des logiques de marché.
Totalement. Et Raymond, quand on vient le voir, parce que moi je ne suis pas le seul d'après ce que c'est dire, il aime à dire que, regardez, les doctorants, ils m'apprennent à travailler. Je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie pour lui, mais il aime bien dire ça. Et aussi le fait de dire les doctorants et ne pas donner de nom. Parce que Quand on vient le voir, il est très, très, très discret. Il n'a pas de téléphone. Il a 2 téléphones, mais il ne va jamais te dire son numéro. Parce qu'il s'est fait agresser par des militaires, on ne sait pas qui, comme ça. Donc, il est un peu traumatisé. Mais suite à sa vie qu'il a passée à l'armée et tout, il a gardé un peu ce côté espion. Par exemple, on discutait. Après, il a reçu un appel. Et moi, je ne pourrais pas vous dire qui était allé au Paris. Et même la personne qui était à l'appareil, il ne pourrait pas dire qui était à côté de Raymond Charlotte. Et aussi, quand on va poser ces questions à Raymond, Raymond ou à d'autres, on va dire, anciens de la lutte décoloniale, etc., il faut prendre en question leur situation, politique, quoi.
Voilà. Ouais, c'est pour dire ce qui est intéressant, ce que tu poses là, et qui me semble aussi pouvoir nourrir notre conversation. c'est en rapport avec la question de la transmission. Il y a transmission quand il y a aussi une forme de demande, en fait. C'est-à-dire que c'est aussi un lien générationnel qui se passe aussi du côté d'un questionnement. Toi, tu viens avec une soif de connaissance qui est quelque part une condition de la transmission. On ne transmet pas juste parce qu'on a décidé de transmettre, on ne transmet pas non plus en l'air, c'est toujours dirigé, c'est toujours orienté, en fait. Et c'était Stéphane Martelly, qui est donc une autrice et chercheuse et enseignante d'origine haïtienne, qui enseigne au Canada, qui me disait aussi par rapport à l'archive, il dit « l'archive est toujours adressée, mais c'est pas toujours ceux auxquels c'est adressé qui viennent demander des comptes à l'archive. » Donc c'est aussi ça la problématique aussi qui se passe.
Bah oui, il me racontait aussi que il y avait une revue de Guyane qui est venue chercher des archives de lui, une photo assez célèbre de plusieurs indépendantistes guyanais dans les années 70. Et cette revue a publié la photo, mais il a eu aucun droit. En fait, il a aucune rémunération. Ils ont juste utilisé son image comme ça, quoi. C'est pour ça, à peu près tout le long de nos conversations, il me donne pas toutes les informations. Et bon, je retrouve ça chez d'autres artistes, hein, comme José, il donne pas tout, Roseman aussi, mais ils savent l'importance que leurs archives a pour nous ou pour des gens de leur âge. Par exemple, moi personnellement, avec les archives de mon grand-père, qui est un grand photographe guyanais, mon père, il a des archives, ma tante a des archives. Mais je ne suis pas si sûr que ma tante sait que mon père a les archives de mon grand-père, par exemple. Parce qu'on sait et on ne veut pas que ces archives atterrissent dans les archives françaises. On souhaite que moi ou d'autres personnes de ma famille puissent développer ces archives.
Justement, qu'est-ce que tu peux finir en parlant de la situation de chercheurs en lien avec une institution, tu es doctorant en fait, tu dépends de plusieurs institutions d'ailleurs. Ta situation de chercheur guyanais pris dans cette espèce de, comment dire, d'espace en contradiction entre vraiment la notion d'une transmission interguyanaise et le fait de développer en fait un doctorat en histoire de l'art au sein d'institutions universitaires d'État.
Ça fait longtemps que je ne suis pas allé à l'UHSS. Hein. Ça doit faire 2 ans. Hein. Non. La situation en Guyane, c'est assez difficile au niveau matériel pour faire des recherches. Il n'y a pas de bibliothèque spécialisée en histoire de l'art. Donc, je suis obligé de commander des livres. Ou quand je viens ici, j'achète une tonne de livres. Hein. Moi, je peux vous donner des anecdotes, des 100 kilos de livres pour retourner en Guyane.
Des suppléments bagages. Des
suppléments bagages, 50€, 100€, je sais pas quoi. Et ensuite, la situation intellectuelle en Guyane, vous avez les anciens qui sont toujours debout, qui donnent de la force et de l'inspiration comme Raymond ou bien d'autres, hein, dans le domaine artistique, il y a José qui continue de lutter, malgré le fait qu'il soit blacklisté, qu'il soit dénigré par les institutions culturelles en Guyane. Et au niveau des universitaires guyanais, bon, moi, j'attends pas grand-chose, hein, parce qu'ils sont déjà intégrés dans l'institution coloniale. Hein. Ils cherchent que le statu quo, il n'y a pas de recherche radicale. Juste dire que la Guyane est une colonie, ils ne sont même pas capables de le dire. Hein. Même dans leurs conférences, même comme un leitmotiv, on n'entend pas ça. Et après, au niveau de la masse, je pense qu'il y a une demande. De connaissance de soi, d'appropriation des terres, de réorganisation de la société. C'est juste qu'il faut une bonne propagande scientifique, etc., pour pouvoir, organiser les luttes. Hein.
Et quid de la connexion ou de la déconnexion en fait de la Guyane avec son bassin régional, comme je pense au Suriname, au Guyana, au Brésil.
Au niveau artistique, il n'y a pas vraiment de lien. Il y a certains artistes, mais toujours sous forme individuelle, qui traversent, hein, qui vont au Suriname, qui vont au Brésil. Il y a eu dans les années 90 un élan avec la revue Mitaraka. Qui, en, qui a regroupé plusieurs individus et plusieurs groupes. Par exemple, un collectif, un des premiers collectifs du Suriname était très en lien avec Mitaraka. Ils avaient des liens aussi avec le Brésil, avec le Venezuela. Et voilà, et surtout avec la Martinique, avec René Louise qui est venu, avec Bertin Nivor, Fromager, etc., qui ont rencontré la Mouraille, qui sont allés jusqu'à Patou, etc.
Ouais, donc il y a des traces quand même de ce lien avec le groupe Fromager, mais il n'y a pas des mises à jour de ça, à part tes liens avec M. Demetrius, je veux dire.
Et avec Africada, voilà. Avec un groupe guyanais, non, il n'y a pas vraiment. Hein. C'est juste des individus, individualités qui partent, qui reviennent. Et voilà. Hein. Après, il ne faut pas dire, il ne faut pas tuer la peau de l'ours. Hein. Les anciens sont toujours vivants. Hein. Ils sont là, ils attendent, mais ils perdent espoir. Hein. Franchement, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Il faut faire la révolution, hein. Point, c'est tout. Hein.
Ça, c'est pas mal déjà comme projet. Bon, aujourd'hui, on aura ouvert certains sujets qu'il faudra effectivement... on verra ce qu'on garde sur l'enregistrement, hein, selon l'évolution des lois françaises. Mais en tout cas, on a le droit d'évoquer des possibilités à venir. Merci Paul Aimé pour ça. On va clore notre séance d'aujourd'hui avec Denethem Twambona, que je voulais inviter à venir ramasser quelques pensées avec nous. Et je crois qu'aussi cette ouverture sur la Guyane, mais aussi sur les différents lianages, est une belle manière d'introduire ta prise de parole qui va conclure notre journée. Donc si tu viens nous rejoindre, Denethem.